Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Débat autour de la durée de la transition, c'est le sujet de notre grand dialogue d'aujourd'hui. Depuis quelques jours, des partis politiques et organisations de la société civile réclament l'organisation des élections. Ils estiment que la transition en cours dans le pays depuis 2020 est arrivé à son terme le 26 mars dernier. Un décret signé par le président de la transition en mars 2022 fixait la durée de la période transitoire à 2 ans selon ses partis. Une échéance arrivée à terme donc. Aucune réaction des autorités de la transition à ce stade, mais certains de leurs soutiens estiment qu'il s'agit d'un faux débat. Ce décret ne tiendrait plus depuis la révision de la charte de la transition, disent-ils. Nos invités pour en parler aujourd'hui sont au nombre de 3, Sekou Niamé Batili. Il est porte-parole du Rassemblement pour le Mali, l'ancien parti au pouvoir. Également avec nous au téléphone, Nouhoum Togo de l'USR. L'USR, c'est l'Union pour la sauvegarde de la République. Et Soumaï Lala, il est enseignant-chercheur et analyste politique. Ce débat sera animé par Sekou Gadjigo. Merci, mesdames, messieurs, bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci, chers invités, d'être là. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je disais que le dimanche dernier, 31 mars, des partis politiques, en tout cas un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile, est monté au créneau pour demander l'organisation rapide des élections. Ces partis estiment que la transition est arrivée à son terme le 26 mars dernier. Écoutons ce papier signé. On me fait signe à la technique que cet élément n'est pas prêt. D'ici là, je voudrais vous poser cette question à vous, Sekou Niamé Batili. Votre parti faisait partie de ce regroupement qui demande l'organisation des élections. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette sortie pour réclamer la fin de la transition?
Oui, et quoi de plus normal pour les forces politiques, et surtout sociales, de demander l'organisation des élections conformément à la charte des partis politiques de 2005 qui, en son article D, indique clairement que les partis politiques sont créés pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc moi, je dis d'abord, nous sommes engagés dans une transition. Et moi, mon parti, le Rassemblement pour le Mali, nous avons fait un communiqué. D'ailleurs, l'un des premiers communiqués qui a été fait par rapport à la fin juridique de la transition. Alors, la transition dans notre pays est là depuis le 18 octobre 2020. Une première période de phase de transition de 18 mois, une année et demie, a été donnée par les autorités à la faveur des concertations nationales en début vers septembre 2020. Et à la fin de ces 18 mois, les autorités n'ont pas pu tenir leur engagement, même s'il y a eu entre-temps une rectification et le vice-président de la transition est devenu président de la transition. Et lors de sa prestation de serment, son investiture, il s'est engagé à respecter cette durée de transition. Les autorités n'ont pas pu, ce qui nous a valu à l'époque des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l'IEMOA. De passage, j'ai sali la résilience du peuple malien qui a subi durant 6 mois ces sanctions inhumaines, ces sanctions qui ne relèvent pas d'eux, dont il n'est pas responsable, mais que seules les autorités en prennent l'entière responsabilité. Et c'est après les autorités ont pris de façon souveraine et unilatérale, je dis bien unilatérale, une nouvelle durée de transition de 24 mois qu'elles ont soumis à la CEDEAO et aux Nations Unies. Donc ces rappels-là sont très importants pour dire à tel point la classe politique et les forces sociales ont été patientes par rapport à la gestion de la transition et ont accompagné jusqu'au bout. Mais il s'agit encore une fois des engagements pris par les autorités de la transition. Et la charte révisée d'ailleurs parler de ça. Mais il y a une nuance quelque part. Parce que pourquoi ? Moi, je mets toujours devant les engagements des autorités. Parce que c'est très important. Vous savez, la dignité de l'homme regroupe l'intégrité, la fiabilité, mais le respect de la parole donnée. Et c'est ce qui est vrai. Moi, je pense que même si on mettait les textes de côté, des responsables d'un pays qui s'engagent à faire des choses à des reprises et qui n'arrivent pas à les faire, doivent sortir de ces silences-là pour communiquer, informer les peuples, informer la classe politique, les forces sociales. C'est ce qui manque, surtout au niveau de la communication. C'est comme si nous sommes dans une gestion sans ici, une gestion qui n'a pas de plan. Et c'est ce qui est encore plus grave que nous avons constaté que le 25 septembre 2023, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, a fait un communiqué du gouvernement, le communiqué numéro 060, qui indiquait un léger report des élections prévues en février 2024. Parce que cette durée a été fixée par un décret présidentiel pour la durée de 2 ans, 24 mois. Et malheureusement, voir que des autorités restent silencieuses jusqu'à ce que cette période-là expire et que la classe politique et les forces sociales se manifestent. Que derrière, nous entamons le 10e jour aujourd'hui, les autorités n'ont pas daigné, en tout cas, s'exprimer sur la situation. Ça en dit long sur leur façon de gérer les affaires publiques. Et voilà pourquoi, moi, mon parti, le Rassemblement pour le Mali, nous sommes associés à toutes ces forces politiques et sociales pour faire cette déclaration commune, pour d'abord constater la fin juridique de la transition, ensuite demander l'organisation des élections pour les retours à l'ordre constitutionnel dans notre pays.
Pour vous, la transition est arrivée à son terme le 26 mars dernier, c'est clair.
Ce qui est clair, parce que je rappelle, quand on prend... parce que d'aucuns disent que la charte fait référence aux recommandations des assises nationales de la refondation. Et moi, je rappelle quand même que les assises nationales de la refondation, quand on lit les recommandations, on dit les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans. Les délais avancés par qui ? Par les participants aux assises. Donc, varient, c'est les Français. On dit les délais varient, ça veut dire les participants à ces assises-là, certains ont proposé 6 mois, certains une année, certains 3 ans, oui, certains 5 ans. Donc, on dit ça mois, varie. Oui. C'est leur proposition qui varie entre 6 mois oui. et 5 ans. Oui. Mais ce qui a été demandé, et par rapport à la durée, ce qui a été demandé à la page 17 du rapport final des assises nationales, la refondation, vous m'excusez, je vais bien lire. On dit « En vue d'assurer les élections et de mettre en place un fondement solide de la refondation, les participants ont introduit lors des débats un point sur la durée de la transition. À cet égard, plusieurs propositions ont été faites. Les localités se sont prononcées pour une durée comprise entre 6 mois à 5 ans. Se sont prononcées entre une durée, on dit une durée. Ça veut dire que les autorités avaient la latitude de prendre une durée dans cette fourchette-là. Mais on n'a pas dit de prendre des durées de façon séquentielle. Ce n'est pas ce qui a été demandé par les assises. Les assises ont bien dit une durée de transition entre 6 à 5 ans. Si le président de la transition voulait, il pouvait prendre 5 ans directement. Mais il a pris 2 ans. Et c'est ces 2 ans-là qui ont expiré. Nous sommes dans notre droit de réclamer, en tout cas, les élections pour les retours
d'accord.
à leur conseil.
Merci. Monsieur Noun Togo, rebonjour. Vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous. Bonjour tout le monde.
Ok. Êtes-vous d'accord avec Sékou Niamé Batili que la transition est arrivée à son terme le 26 mars dernier, les 2 ans qu'avait décrété le président de la transition en mars 2022 ? Bonjour.
Je voulais dire à mon jeune frère, on ne gère pas le pays par le mouchon, parce qu'il y a eu beaucoup de milliers de morts. Depuis que les tragédies ont commencé en République du Mali, il y a eu des milliers de morts. Que ce soit dans le centre, que ce soit au nord du Mali, que ce soit un peu partout sur l'étendue du territoire national. Le mouchon, on ne peut pas gérer le pays avec le mouchon. Où il parlait de la morale en nous disant que nous avons eu des engagements avec la CEDEAO. Et ses engagements au départ, donc, c'était de trouver la formule, donc d'aller à 24 mois. Aujourd'hui, la situation a évolué dans ces contextes. Le cap comment prendre Kidal qui était en jeu. Il fallait aussi revoir nos accords avec la CEDEAO, parce qu'au lieu de la vision de la CEDEAO, les engagements que nous sommes arrivés à prendre avec la CEDEAO donc, est caduque maintenant aujourd'hui. Donc on n'en parle plus. Donc ça c'est terminé. Les Maliens doivent se retrouver, échanger et puis trouver la formule. Ils le savent très bien. Ils parlent de charte. La charte a été très claire. Ça évolue entre 0 à 5 ans. Nous sommes dans cette logique. Et à ce stade de la chose, nous sommes engagés avec d'autres pays, avec l'AIF. Nous sommes en priorité, c'est de gérer l'aspect sécurité. Et tout le monde le sait, les difficultés que nous avons eues pour la tranquillité, pour que le Mali soit, donc que le Mali reste jusqu'à présent, c'est l'aspect sécuritaire que eux-mêmes au pouvoir en son temps, ils n'ont pas su gérer parce que c'est eux qui étaient au pouvoir, donc le pays a tangué. Et je me souviens, en son temps, on a même parlé du problème du centre, de faire extrêmement attention. Nous avons, avec les représentants des Nations Unies ici, discuter avec eux à l'hôtel Salam, en son temps ils étaient présidents de la République, nous avons dit de faire extrêmement attention parce que le centre donc, peut avoir, donc la crise peut métamorphoser sur le centre et donc il y aura des difficultés. Ils ont dit en son temps qu'ils maîtrisent et qu'ils gèrent la situation, qu'il n'y aura pas donc la crise ne va pas se prolonger donc, sur les restes de l'étendue du territoire national. Avant leur chute, le pays était carrément occupé par les terroristes. Il faut trouver la solution. Depuis 5 ans, Kidal n'était pas dans les jurons de la République. Il fallait reconquérir Kidal. Il fallait travailler pour avoir des dispositifs sécuritaires. Et en son temps, c'était très clair. L'ordre du jour n'était pas allé vers l'organisation des élections. Vous avez même remarqué, les partis politiques n'étaient pas impliqués dans la gestion du pouvoir en son temps, parce que la maison brûlait, il fallait trouver la formule, donc comment éteindre les incendies, c'est ce qui s'est passé.
Oui, monsieur Togo, excusez-moi, est-ce que vous êtes d'accord, je reviens sur ma question, est-ce que vous êtes d'accord que la durée de la transition, en tout cas, était de 2 ans à partir du décret signé par le président de la transition en 2020.
Avec la CEDEAO. Pour nous, donc, aujourd'hui, ça, c'est caduque. Nous référons sur la charte qui gère aujourd'hui la situation.
OK. Donc, ce décret est caduque. Donc, vous vous référez à la charte maintenant.
Oui.
Alors, monsieur, là,
nous souhaitons rapidement qu'on se retrouve parce que le Premier ministre a voulu engager un débat avec les partis politiques. Nous avons remarqué à Brio eux-mêmes leur absence. Ils n'ont pas souhaité rencontrer le Premier ministre avec certains partis politiques comme l'ADEMA et les autres. Si il nous propose donc d'aller vers le dialogue, je ne sais pas quel dialogue. Le pouvoir était avec vous, vous êtes tombé et vous voulez encore nous donner des directives comment gérer le pays. Je pense que c'est là-bas qu'on se retrouve pas.
D'accord. Monsieur là, il y a deux parties. Hein, ici, il y a une partie qui estime que la transition a pris fin, en tout cas devait prendre fin le 26 mars dernier, conformément au décret du président de la transition. Et il y a l'autre partie qui dit que ce décret ne tient plus puisque la charte la transition a été révisée et un article de cette charte dit que le président, en tout cas la transition prendra fin par l'élection du président de la République. Alors comment vous analysez ces deux positions ?
Alors avant de répondre à la question, je voudrais rectifier quelque chose qui a été dit ici, que je ne trouve pas pertinent. Quand le grand frère Noum Togo dit que l'engagement a été pris vis-à-vis de la CEDEAO, ce n'est pas une réalité. L'engagement a été pris vis-à-vis du peuple malien parce qu'on a demandé aux Maliens, à travers les Assises nationales de la Refondation, de se retrouver et de faire une proposition de durée. C'est les Maliens qui ont fait une proposition. Et le président, en toute souveraineté, en toute logique, a décidé, en toute légitimité à l'époque, a décidé d'aller sur un délai de 24 mois. Et cet engagement, il l'a pris pas auprès de la CEDEAO, mais auprès du peuple du Mali. Donc ça, c'était la petite précision que je voulais faire. Maintenant, sur la question, et de façon constante, hein, je l'ai dit, il y a eu trop de fausses notes dans cette transition depuis un certain temps. Dès l'entame, je pense, si on avait dessein de maintien ou des dessins de réforme, de reconquête, etc., etc., la solution, elle était toute simple. On aurait dû suspendre la Constitution, prendre une charte et aller avec la charte sans préciser des délais. Je pense qu'il y a des pays aujourd'hui qui ont pris, appris les leçons de l'exemple malien, qui, voilà, aujourd'hui ont décidé d'aller sur quelque chose qui n'est pas circonscrit dans les temps. Mais dès l'instant qu'on a décidé de faire cohabiter une charte auprès d'une constitution, on a été dans un imbroglio juridique qui a créé des précédents, et c'est ces précédents qui nous rattrapent aujourd'hui. Et clairement, l'argument avancé pour dire qu'il n'y a pas un vide juridique, c'est le droit, il y a matière à discuter, c'est l'interprétation, mais de mon point de vue, il y a véritablement un vide juridique qui est là, pour plusieurs raisons. Vous avez la charte, je crois, dans son article 24, qui circonscrit la transition dans un délai. Aucun pouvoir, en fait, le pouvoir doit s'inscrire dans une certaine temporalité. Lorsque cette temporalité n'est pas là, on n'est plus dans un pouvoir, c'est autre chose. Et jusqu'à preuve du contraire, je défie quiconque, on est encore en démocratie. En atteste la récente sortie du président de la République lorsqu'il a commémoré le 26 mars, il l'a rappelé. Il a subtilement fait le bilan de la démocratie. Donc on est en démocratie. Au-delà de la charte, vous avez un certain nombre de choses qui font que le président avait l'obligation d'aller à ces élections. Parce que dès l'instant que la charte de la transition dit que la transition va durer 24 mois, la charte révisée, dès l'instant que le président prend un engagement sur ces 24 mois, on n'est plus dans une obligation de moyens. Logistiquement parlant, on est dans une obligation de résultats. C'est-à-dire qu'il devait réunir toutes les conditions pour qu'on aille aux élections. À défaut de pouvoir réunir toutes les conditions pour aller aux élections, il aurait pu convier les Maliens, s'adresser aux Maliens, convier les Maliens, organiser une rencontre où les forces vives se retrouveraient et décideraient d'un nouveau délai. Ça aurait été constant. Une fois encore, ce n'était pas une obligation de moyens, c'était une obligation de résultats. Ce qui me conforte dans cette position, aujourd'hui, vous avez certains qui disent que, et dans la charte et dans la nouvelle constitution, qu'il est dit dans les dispositions transitoires que la transition prendra fin à l'issue de l'élection du président de la République. C'est une disposition transitoire. Et cette disposition transitoire acte quelque chose, en fait. Et c'est là où l'obligation des résultats vient. La même chose s'est passée au Sénégal quand Macky a voulu reporter les élections. Le président de la Cour constitutionnelle a rappelé que la date des élections était un principe cardinal. C'était une qui avait valeur, voilà, supra, etc., etc., et qu'on ne pouvait pas revenir sur ce principe. Donc, Macky a l'obligation d'organiser les élections. Et là, c'est là où on parle d'obligation des résultats. Et à partir du moment où on n'est pas dans ces sens-là, on viole les lois et on crée un vide. Maintenant, ceux qui disent qu'il fallait aller vers l'organisation des élections pour parler de fin de la transition, je les invite à lire l'article 186 de la nouvelle constitution. Pour moi, on n'est même pas dans cette nouvelle constitution, mais c'est l'argument qu'ils ont pris pour justifier. Donc, je vais dans leur sens. Pour moi, on est toujours sur le plan du droit constitutionnel. On est toujours avec la constitution de 1992, parce que pour être dans la constitution de 2023, il y a un certain nombre de préalables qui n'ont pas encore été actés. Et dans l'article 186 de la nouvelle constitution...
Vous en citez quelques-uns.
La mise en place des institutions. L'article 186 dit que le fondement de tout pouvoir en République du Mali, c'est la Constitution. Et cette Constitution dit qu'il faut un président de la République, pas un président de transition, pas un chef de l'État, il faut un président de la République. Qui dit président de la République dit forcément élection. Celui qu'on a aujourd'hui n'est pas président de la République, il est président de la transition, il n'a pas été élu. L'article 180, la Constitution de 2023 parle d'institutions élues, notamment le Parlement, qui va être bicaméral. Les sénateurs, les députés, les sénateurs dans une proportion, les députés à 100%. On parle de parlementaires élus, pas de parlementaires nommés. On parle de mise en place d'autres institutions. On n'est pas dans ce cas de figure. Et c'est là où je disais qu'on a créé un imbroglio juridique qui n'avait pas de sens. Et c'est cet imbroglio juridique qui nous rattrape aujourd'hui. Et la réalité, c'est qu'on est dans un vide juridique qui ne dit pas son nom.
On est dans un vide juridique. Sekou Niamey Batil, est-ce que tout n'est pas parti de la révision de la charte de la transition avec surtout cet article 22, alinéa 2, qui dit que la transition prendra fin avec l'élection du président de la transition, sans donner de durée, de date fixe? Où vous étiez quand on révisait cette charte? Pourquoi vous n'avez pas alerté depuis la révision de cette charte?
Non, moi, je ne vois même pas d'incompréhension par rapport à l'article de la charte. C'est ce que je disais tantôt, et tout de même, il faut quand même reconnaître.
Vous pensez que c'est clair, c'est précis?
Non, mais c'est clair et précis. Moi, j'ai dit. Vous savez à quel niveau il y a l'incohérence dans l'analyse de mon cher aîné, Nou Togo. C'est le fait qu'ils s'accrochent beaucoup plus à la charte, aux assises nationales de la Refondation. Mais je rappelle à mon cher aîné, parce que les assises nationales de la Refondation, parlons-en, 95% des localités aux assises nationales de la Refondation ont demandé la révision des avantages des hauts cadres et une harmonisation des rémunérations.
Oui.
Et cela a été fait.
Maintenant, si on veut faire en tout cas le bilan des recommandations des assises...
Non, il ne s'agit pas de faire le bilan, mais il s'agit de rappeler à ceux qui s'accrochent obligatoirement aux recommandations des assises nationales, parce que la charte révisée parle de la durée de la transition conformément aux recommandations des assises. Or, les recommandations des assises, moi je les rappelais ici, à parler d'une fourchette, de 6 mois à 5 ans. Donc, le président a pris 2 ans. Il pouvait prendre 5 ans. Il ne l'a pas fait. Il a pris 2 ans. Maintenant, là où je peux en venir encore, c'est le fait que M. La parle d'obligation des résultats et non d'obligation des moyens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf que nous sommes en face de personnes qui ne comprennent pas ça. Et si d'aventure vous demandez à un enseignant de premier cycle ou de second cycle de faire une opération chirurgicale dans un hôpital, mais c'est clair qu'il va échouer. Nous sommes en face des gens qui ne sont pas juristes, qui n'ont pas étudié des droits, mais qui se font connaisseurs des droits, qui essayent d'interpréter les lois de la République, la Constitution. Or, c'est réservé à un certain nombre de cadres. Et c'est ce qui est le problème au Mali. Chacun parle de tout et essaie d'interpréter à sa guise. Et je rappelle quand même que quand mon cher René Nou Togo parle d'émotion, moi je n'ai jamais été émotif. Pas au point de descendre dans la rue et de réclamer ou d'exiger la démission d'un président démocratiquement élu, je ne l'ai pas fait. L'émotion, c'est quand on prend la rue contre les lois de la République. L'émotion, c'est quand on se range du côté de ceux qui ont pris les armes pour déposer un président démocratiquement élu. L'émotion, c'est de pactiser avec des gens qui ont fait un putsch. C'est ça la réalité. L'émotion, c'est ça. Moi, je ne suis pas émotif. Donc, je crois bien que mon cher René doit comprendre ça.
D'accord. À votre présent... c'est cela l'émotion. Mais quand nous, Togo dit il y a l'insécurité, il y a le fait que le Mali soit engagé dans l'AES, tout ceci,
vous savez,
c'est des arguments aujourd'hui qu'on ne peut pas respecter.
C'est des arguments qui ne tiennent pas.
Vous savez
pourquoi? Vous savez, on a critiqué Alpha Condé d'avoir tenter un troisième mandat et de le faire. On a critiqué Alassane Ouattara ici d'avoir fait un troisième mandat. Vous pensez que ces gens n'ont pas d'arguments valables pour faire ce troisième mandat? Mais ils ont des arguments. Mais nous savons très bien que ce n'est pas juste. Dans notre démocratie, nous voulons un système qui permette, qui favorise l'alternance. C'est ce qu'on a réclamé. Et je cite le ministre d'État lorsqu'il a dit que faire un troisième mandat, c'est comme si on essayait de se dribbler soi-même tout en gardant les ballons. Mais des prolongations en prolongation dans une transition aussi, c'est se dribbler soi-même tout en gardant les ballons, c'est pareil. Moi, je ne vois pas de différence entre une prolongation indéterminée et un troisième mandat, je ne vois pas de différence. Les autres avaient des arguments pour prolonger et pour faire des troisième mandats. Et je sais que si nos autorités veulent avoir des arguments, ils auront des arguments. Mais parlons du communiqué. Parce que le soutien aux autorités comme nous, Togo, sont prêts à défendre vaille que vaille, à tout prix, même s'il faut nier l'évidence. Mais on ne peut pas être plus royaliste que les rois. Les autorités elles-mêmes ont dit quoi dans le communiqué numéro 060? Elles ont avancé trois raisons. Trois raisons. Et parmi ces trois raisons, je vais citer les trois raisons. Les autorités ont d'abord parlé de la prise en compte. La prise en compte des nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale. Un. De deux, les autorités ont parlé aussi de la prise en compte par l'aise des résultats de la révision des listes électorales. Trois, les autorités ont parlé des difficultés de gestion de la base de données RAVEC qui avait été prise en otage par l'entreprise IDEMIA. Voilà les trois raisons qu'elles ont avancées pour faire les légers reports. Donc comment nous, Togo, peut s'arroser ses droits d'être pris ou réaliste que le roi en avançant les aspects sécuritaires que les autorités elles-mêmes n'ont pas avancés. On parle chaque jour de la montée en puissance de l'armée. Les autorités, c'est dans ce contexte, elles ont pu organiser le référendum constitutionnel au Mali le 18 juin 2023. C'était devant nous tous. Donc on ne peut plus avancer des aspects sécuritaires pour dire qu'on va prolonger encore une fois la transition. Et je rappelle que les trois raisons avancées par les autorités, parlons de la prise en compte des dispositions constitutionnelles par rapport à la loi électorale. Mais nous sommes avril, c'est la session d'avril au CNT, mais prendre en charge ces dispositions-là dans la loi électorale, ce n'est qu'une session. Bien vrai qu'on pouvait le faire même avant aujourd'hui, si on était de bonne foi, parce qu'on pouvait convoquer au niveau du CNT une session extraordinaire. On l'a vu par le passé, dans cette même transition, que ça a été fait à plusieurs reprises. Ça, c'est un. Deuxième raison qu'elles ont avancé, la révision des listes électorales, la prise en charge des nouveaux majeurs dans le fichier électoral. L'AIGE, lors de son point de presse d'octobre 2023, l'a indiqué. En mois de janvier, février, déjà, c'est fini. En 2024, nous sommes avril. Donc, ça veut dire qu'on a fini avec ça. Par rapport aux données biométriques prises en otage par l'entreprise IDEMIA, l'entreprise française, mais les autorités elles-mêmes ont décoré ici des personnalités qui ont récupéré les données et qui ont créé Malikoura Biométrie. Donc, nous pouvons dire que les raisons avancées pour les légers états ont toutes été levées.
Il n'y a plus aucun obstacle à l'organisation des élections.
En tout cas, moi, je ne vais pas me créer des raisons que les autorités elles-mêmes n'ont pas dit. C'est qu'elles ont avancé, les trois raisons ont toutes été levées. Donc je pense aujourd'hui qu'on n'a pas d'obstacle devant nous pour aller vers l'organisation des élections au Mali.
Noum Togo, notre analyste juriste le disait à l'instant que nous sommes dans un vide juridique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
En tant que juriste, je le concède. C'est son analyse. Comme vous savez, la loi, elle, quand même, en termes juridiques, chacun a son appréciation. Moi, le dossier est pendant devant la Cour constitutionnelle. D'autres ont même attaqué la décision. Mm-hmm. C'est avec les grands juristes et on verra ce que ça va donner. Mais je me suis dit, quelle que soit la situation, l'organisation des élections, c'est des propositions venant du gouvernement de la République. Ce n'est pas la rue qui va nous imposer l'organisation des élections. Une chose est sûre. Et surtout, donc, nous sommes, depuis quelque temps, le Premier ministre personnellement a tenté de rencontrer ces mêmes partis politiques qui ne veulent pas les rencontrer. Je dis, ceux qui ont géré le pays et qui connaissent donc le pays, et qui face à une responsabilité de la gestion de l'État, si un Premier ministre les convoque, la modestie même les pousse normalement. En tant que responsable, si on a l'habitude de gérer l'État, ce n'est pas Choguel qui les convoque, mais c'est le Premier ministre de la République qui les convoque. Mais ceux qui ne veulent pas discuter avec le Premier ministre de la République, c'est des aventuriers. Donc, ils sont libres donc, de faire ce qu'ils veulent. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, parlant de la morale, en essayant d'expliquer les histoires du troisième mandat, nous ne rentrons pas dans ces jeux. Et pour nous, c'est très clair. Dans les jours à venir, les débats continuent avec les hommes politiques. Aujourd'hui, on vient de discuter avec Issoufi. Nous continuons à travailler pour apaiser la situation et nous ferons en sorte qu'ensemble, parce que je suis un des acteurs, moi je ne me suis pas venu là-dedans. Moi, je suis un des acteurs en tant que responsable des FSD, en tant que responsable politique qui a demandé en son temps le départ d'un régime qui pense même pas à la mort, qui pense pas aux Maliens, qui joue avec les biens de l'État, qui la corruption est devenue donc leur football favori.
D'accord.
Je ne peux pas accepter ça. Dire que il y a eu un coup d'État, c'est le peuple qui donne le pouvoir et c'est le peuple qui retire le pouvoir. Et c'est très clair, il faut qu'ils acceptent.
D'accord. D'accord. Nous, Togo, comment sortir de cette situation maintenant, puisque nous sommes dans un flou. Il n'y a pas de certains estiment que la transition est arrivée à son terme, d'autres disent le contraire. Les autorités ne piquent pas mot, ne disent rien. Est-ce que aujourd'hui
ils vont dire mot parce qu'ils veulent discuter avec les gens.
Donc, les acteurs politiques doivent se retrouver avec les autorités pour fixer une autre échéance.
Mais tout ça, c'est dans les débats. Donc, c'est pour cela, il y a un chef du gouvernement qui souhaitait les rencontrer et discuter en les expliquant ce qui s'est passé. Mais il ne souhaite pas rencontrer le premier ministre, il veut le régler ça dans la rue. Il n'y a pas de problème, il peut le faire. Mais une chose est sûre, c'est pour l'intérêt. Nous sommes tous maliens. Chacun est issu des communautés. Chacun est issu des grandes familles. Nous avons notre éthique, nous avons la morale, nous avons une façon de voir les choses. Il faut qu'ensemble que les Maliens soient faits et que les Maliens voient l'avenir ensemble. Maintenant, concernant les discours populistes ou des discours pour essayer de faire révolter les Maliens, ça ne marchera pas. Parce que les Maliens ont vu ces hommes politiques gérer le pays. Quels les résultats ça nous a donné? Si aujourd'hui on se trouve devant cette situation catastrophique, c'est la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance des hommes normalement qui doivent être traduits devant la justice.
D'accord. Soumaïla, je le disais tantôt, il n'y a pas de consensus sur la question. Comment faire aujourd'hui pour sortir de cette situation? Est-ce que les acteurs politiques doivent se retrouver ou bien il faut, parler du point de vue du droit, voir ce qui est prévu par la Constitution ou la Charte, comme certains ont déjà saisi la Cour constitutionnelle. Est-ce que la Cour constitutionnelle peut se prononcer et trancher sur la question?
Je pense que la Cour a l'obligation aujourd'hui de quand même se pencher sur la saisine qui lui a été faite récemment. Elle peut-être recevoir ou ne pas recevoir, mais elle a cette obligation et je pense que dans les jours à venir, elle va communiquer en la matière. Maintenant, il faut couper la poire en deux. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, le président de la transition, doit s'adresser aux Maliens. C'est important. Et les partis politiques sont dans leur rôle aujourd'hui quand ils demandent qu'on aille aux élections, quand ils demandent que ce qui avait été convenu soit respecté. Les partis politiques sont pleinement et clairement dans leur rôle. Et je pense qu'il y a eu, c'est mon opinion personnelle, de la part du gouvernement et notamment du président de la République, un manque d'anticipation. Je pense que dès l'instant que le ministre de l'administration territoriale a dit publiquement qu'on allait vers un léger report, les autorités auraient dû prendre des dispositions pour organiser une concertation afin de faire converger les positions et éventuellement décider de quelque chose. On aurait pu éviter ces débats aujourd'hui si ça avait été comme ça. Mais les autorités se sont murées dans un silence et c'est un silence, à mon sens, qui n'est pas justifié. Aujourd'hui, si ces autorités qui gouvernent le Mali estiment qu'elles n'ont pas encore fini leur mission, qu'elles organisent les élections, qu'elles se présentent. Et à partir de là, qu'on laisse les Maliens s'exprimer. Si elle estime que les Maliens sont en faveur de la continuité de ce qu'ils ont entrepris, elles ont entrepris jusque-là, qu'elles aillent aux élections, les Maliens vont voter, les Maliens vont départager. Mais il est essentiel aujourd'hui pour l'un ou l'autre camp de ne pas parler de façon, disons, avec beaucoup d'assurance au nom des Maliens. Le Mali est multiculturel, multipolaire, les gens ont des avis divergents et on ne peut pas, selon les intérêts d'un camp, dire que le Mali est avec moi, le peuple est avec moi. L'instrument de mesure par excellence pour départager les positions, c'est les élections et on ne peut pas être dans un cadre aujourd'hui où on ne sait pas à quel moment on va organiser les élections. Les questions sécuritaires, ce n'est pas des excuses. C'est pour le rappeler à mon grand frère Noum Togo. On a organisé le référendum ici. Et aujourd'hui, les dispositions sont telles qu'on peut bel et bien organiser des élections. Dire qu'il y a des insécurités, des poches d'insécurité, ça et là. Le Mali est dans ces cas de figure depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Et ça n'a pas empêché l'organisation jusque-là de plusieurs élections. Donc,
le référendum aussi a été organisé dans un contexte un peu différent, avec la présence de forces de l'ONU. Nous ne sommes plus dans ce contexte. Est-ce que l'État est assez prêt pour pouvoir assurer la sécurité, sécuriser ces élections?
Des communications qui nous reviennent, je ne suis pas un spécialiste de la communication sécuritaire, mais de ce qui nous reviennent, aujourd'hui, le départ de ces forces internationales a permis de pacifier le Mali. C'est ce qui nous revient, c'est ce qui est dit. Et si le départ de ces forces internationales a permis de pacifier le pays, ça veut dire qu'il n'y a plus de raison d'organiser des élections dans ces poches-là qui étaient des poches difficiles à gérer, des poches difficiles à prendre. On a des gouverneurs militaires qui ont été nommés un peu partout. Il y a l'armée aujourd'hui, on va dire, le message officiel qui monte en puissance. Il y a des supplétifs russes qui sont en appui. Autant de mécanismes qui font que sur beaucoup de pans du territoire, on a dit que la sécurité est revenue. Donc si on se fie à ces discours officiels, la raison sécuritaire ne tient pas. La raison sécuritaire ne tient pas. Maintenant, par rapport à la question de l'inclusivité, je pense que les autorités s'y sont pris mal. Il fallait aller vers ça dès l'annonce du report des élections. Et le Premier ministre, aujourd'hui, quand il décide de rencontrer la classe politique, moi, personnellement, je me pose des questions. Je me pose des questions pour plusieurs raisons. Première raison, déjà les partis politiques ont estimé que les premières convocations n'étaient pas conformes à l'usage. Le cabinet s'est juste confondu en communiqué et le Premier ministre lui-même l'a reconnu. On ne peut pas, pendant 2 ans, snober la classe politique et à un moment donné, parce qu'on veut aller vers quelque chose, faire appel à cette même classe politique qu'on a vouée aux gémonies, qu'on a jetée en pâture. Il n'y a pas de logique. La logique voudrait que cette classe politique décline l'invitation. Et quand bien même certains ont accepté, quand on écoute le compte-rendu des différentes rencontres, le message passé par le Premier ministre, nulle part il n'a été question aujourd'hui des questions qui sont essentielles à la vie de la nation. Le Premier ministre s'est plutôt contenté de narrer, de faire l'historique de tout ce qui s'est passé, d'être dans une posture complotiste contre le Mali, etc., etc. Et ça, ce n'est pas le message qu'il fallait passer. Les partis politiques avaient besoin d'entendre un certain nombre de choses, les retours à l'ordre constitutionnel, la gestion de la question énergétique, etc., etc. Si, je suis convaincu que si ces questions avaient été portées à l'ordre du jour, beaucoup de partis auraient répondu à son invitation.
Vous pensez aujourd'hui que le Mali peut aller aux élections alors que le pays s'est engagé dans des chantiers, sinon sur des fronts, comme la sortie de la CEDEAO, son engagement au sein de l'AES? Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut tenir des élections avec...
Ça revient à ce que j'ai dit. Oui. Si les autorités actuelles estiment qu'elles n'ont pas fini leur mission, qu'elles organisent des concertations, elles estiment pleinement aujourd'hui que les Maliens sont avec eux, que les Maliens décident que ces autorités puissent porter leur candidature, qu'on aille aux élections, qu'on sorte en fait de ces vides, de ces incertitudes et qu'on aille vers quelque chose qui est circonscrite dans le temps. Ça, c'est extrêmement important. Et le fait de ne pas vouloir aller aux élections conforte la thèse de ceux qui disent que la sortie de la CEDEAO, la création de l'AES, partent du postulat que les autorités actuelles ne veulent plus quitter le pouvoir. S'ils n'avaient pas de raison au fait de s'éterniser au pouvoir, pourquoi quitter la CEDEAO à un moment où on annonce le report des élections? Parce qu'on sait que la CEDEAO aujourd'hui était la seule communauté qui pouvait rassembler le reste de la communauté internationale autour d'une question et faire pression. Aujourd'hui, cette pression n'est plus. Pourquoi aller vers l'AES? Parce que les intérêts des 3 pays sur un certain nombre de questions convergent. Maintenant, pour moi, c'est du faux fuyant. Si on n'a pas d'arrière-idée, si on n'a pas d'autres choses dans la tête, je pense que fondamentalement, on peut véritablement aller vers ces élections, quitte à être candidat. Et les Maliens ne s'y opposeraient pas aujourd'hui.
D'accord. Sékouniame Bouattili, il le disait tantôt, Soumaïla Lala, que depuis que ce léger report a été annoncé, les autorités se sont murées dans un silence. Mais est-ce que ça n'a pas été le cas au niveau de la classe politique aussi? Est-ce que vous ne pouviez pas alerter, depuis qu'on a annoncé ce léger report, sur cette situation?
Non, moi j'estime que nous avons alerté, parce que juste après l'annonce du léger report dans le communiqué 060.
Oui, depuis quelques temps, il faut reconnaître que beaucoup de partis observent le silence. Et on est même surpris de voir que maintenant ils sortent de ce silence-là.
Oui, et c'est quoi ? La gestion de la transition ne relève pas de notre responsabilité. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Nous, on a été là durant 3 ans et 8 mois, durant que nous accompagnons les autorités de notre manière. Parce que nous nous sommes dit quand même qu'accompagner n'est pas aussi les bénis. Oui, accompagner n'est pas aussi que je suis d'accord avec tous. Nous avons fait des propositions, nous avons fait des critiques, c'est vrai. Mais lorsqu'il y a eu les aéroports, nous avons communiqué là-dessus et nous nous sommes indignés. Nous avons aussi dit qu'il y a des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes par rapport à ces légers reports. C'est pourquoi au tout début, moi je disais que les autorités pouvaient anticiper. Parce que s'il y a une vision derrière, gouverner c'est prévoir. Vous avez le président de la transition à l'époque a pris un décret numéro 0335 qui a fixé la durée de la transition à 24 mois. Maintenant, le gouvernement sort à quelques mois de cette échéance pour dire qu'il y aurait un léger report. Et d'ici la date, le gouvernement devait anticiper en organisant une concertation avec les forces vives de la nation, pas que la classe politique. Parce que certains ne comprennent pas aussi, même ces mouvements de ces deux jours-là, c'est pas que la classe politique. Si c'était uniquement la classe politique, on allait dire que ah oui, ce sont les politiques seulement, ils ne se soucient que des élections. Mais il y a des forces sociales dedans, il faut les reconnaître aussi. C'est des gens pour la plupart qui ne participent même pas, qui ne sont pas candidats à des élections, mais qui veulent que notre pays retourne dans l'ordre normal. C'est ça la réalité que les gens veulent camoufler ou nier. Et par rapport à la réunion plutôt avec les PM, je voudrais quand même rappeler.
Pourquoi vous boudez ces
réunions ? Non, ce n'est pas le fait qu'on boude. Ce n'est pas le fait. Ça, il y a une manière. Notre pays a adopté une loi électorale le 24 juin 2022, n'est-ce pas ? Dans cette loi électorale, en son article 4, c'est bien clair dedans que la mise en place des cadres de concertation entre l'administration, la classe politique et la société civile relève de l'autorité indépendante de gestion des élections, qui est l'AIGE. Donc je rappelle à l'UTO que nous ne voulons pas la violation des lois de la République. On ne peut pas voter des lois et les violer après. Parce que nous avons dit que par le passé, vous avez combattu des régimes qui faisaient des violations, qui ne respectaient pas leur engagement. Mais vous venez faire pire encore, vous voulez que les gens se taisent sur ça. C'est ça la réalité. Et le Premier ministre, peut-être, a voulu jouer le rôle de l'aise. Et c'est pourquoi, moi, j'en vais à l'autorité indépendante des élections, qui s'est résumé en une caisse comme ça, des résonances, je ne sais pas, mais qui ne se manifeste pas. Depuis sa mise en place, il n'y a eu que des activités qui sont tous des points de presse. Toutes des points de presse. Et le dernier point de presse, l'AIGE a dit que très rapidement, il va convier les forces vives de la nation à une concertation. Et depuis jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu cette rencontre-là. Donc ça, c'est la première faute. Deuxième aussi, l'impréparation et la mauvaise préparation de la rencontre avec les premiers ministres. L'ordre du jour n'était pas indiqué. J'ai mis quiconque à défi quand nous, Togo dit que le premier ministre nous a convaincu, il voulait qu'on parle de tout ça. Mais ce n'est pas vrai, c'est une contre-vérité. On dit dans la lettre, dans la première rencontre, on a vu la lettre sur les réseaux sociaux. On ne nous a pas envoyé de correspondance. Pour les deux derniers, nous avons reçu des correspondances, mais dans ça, c'est écrit rencontre d'essence. Rencontre d'essence autour de quoi ? Lors des rencontres que nous n'avons pas participé, là, l'a dit, il n'y a eu que de l'historique du Mali, de l'AS, de la CDAO. Mais jamais le Premier ministre n'a abordé les sujets d'actualité nationale, les sujets qui pouvaient préparer la fin juridique de la transition. S'il avait indiqué cela dans l'ordre du jour et convié la classe politique, je suis sûr que la plupart de ces partis politiques allaient répondre à son invitation. Un dernier point. En août 2021, au niveau du cadre dont mon parti assure la présidence en exercice actuellement, nous avons envoyé une correspondance au Premier ministre en août 2021 pour demander à les rencontrer pour échanger sur les questions d'actualité. jusqu'à preuve de contraire. Là où je parle actuellement, nous n'avons pas été répondu, nous n'avons pas été reçu.
D'accord.
Donc moi,
d'accord,
je pense que c'est un Premier ministre qui ne veut pas être inclusif,
d'accord,
mais qui, à la surprise générale de tout le monde, veut rencontrer la classe politique que lui-même il a honni.
D'accord. Noum Togo, quel compromis peut-on trouver, en tout cas, pour terminer cette transition, pour fixer peut-être un nouveau délai, une nouvelle durée à cette transition qui va aboutir à des élections? Rapidement, en deux mots.
Je voulais dire d'abord à mon jeune frère,
rapidement,
mes deux jeunes frères, pour les dire tout simplement que d'abord la rencontre de la classe politique, on y était. Alors donc, beaucoup n'y étaient pas, c'est des informations qu'ils reçoivent, donc pas l'ensemble des informations. Donc il est très difficile, un intellectuel sur le bout de TV, une partie de l'information, il faut faire extrêmement attention pour aller à des conclusions.
D'accord.
Alors concernant les autres aspects, dire que nous sommes sortis, on veut être confiant. C'est pour cela qu'on est sorti de la CEDEAO. Moi, j'ai travaillé
au ministère. Oui, s'il vous plaît, on ne va pas revenir sur ça. Le temps imparti est complètement fini. Juste en 30 secondes, si vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous voyez comme solution à cette situation pour qu'on puisse sortir.
Moi, j'invite les autorités, j'invite la classe politique à tout le monde de s'asseoir pour que nous puissions projeter l'avenir. C'est la seule solution, c'est la seule alternative. Maintenant, les autres jugements, les commentaires, libre à tout le monde. Mais la seule solution, la porte de sortie, c'est de se concerter et de discuter sur l'avenir de notre pays.
D'accord. Cela est bien compris. C'est ce qui va mettre fin à ce débat qui parlait aujourd'hui de la durée de la transition qui fait l'objet de grands débats depuis quelques jours dans le pays. Certains estimant que la transition est arrivée à son terme depuis le 26 mars dernier. Pour en parler, nous recevions ici sur notre plateau Sekouniame Batili. Il est le porte-parole du Rassemblement pour le Mali RPM. Nouhoum Togo, président de l'Union pour la sauvegarde de la République, USR, et Soumaï Lala, il est enseignant-chercheur et analyste politique. Ce débat a été mis en ordre par Adjiratou Traoré. À la régie vidéo, il y avait Ibrahima Sanogo. À la présentation, il y avait Sekou Gadjigo. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro.